C'est un grand jour, les amis. Nous avons Thomas Angerer. Ça fait 12 ans qu'on essaie de l'avoir ici. De Binfluence, merci de nous l'amener, Jérémy Thomas. On parle du doute avec Thomas Angerer. Binfluence, c'est la société qui monte.
Ben oui, exactement. Aujourd'hui, on reçoit Thomas, donc fondateur de Binfluence, un quête que j'ai rencontré dans une cage à poules au Silver Square en 2016 ou 2017. Vrai. C'est-à-dire au tout début. Ils étaient deux avec Boris. Aujourd'hui, 6e agence mondiale de l'année. Mais de quoi ? Que peux-tu nous dire sur toi et quelques chiffres sur Binfluence ?
Bonjour les gars, ravi d'être avec vous. Binfluence, on est une agence de marketing d'influence. Donc on design, on exécute et on fait le reporting de campagnes d'influence pour tout type d'annonceurs, hein, que ce soit des grandes marques, mais aussi des institutions ou des ONG, à travers des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux sociaux. Donc créateurs qui peuvent avoir des millions d'abonnés et d'autres créateurs qui peuvent en avoir quelques milliers. Voilà.
Alors, j'aime bien toujours commencer cette chronique par te demander de quoi doutes-tu en ce moment ?
Ah, bonne question. Je doute beaucoup, moi, dans la vie, de tous les jours. Et en ce moment, quel doute que j'ai ?
C'est d'être là, par exemple, d'être là avec nous.
À part d'être là avec vous, non, ça, je doute pas. Non, je pense qu'il y a toujours, on arrive dans la période de l'année où le début d'année se termine et on va rentrer doucement dans la deuxième moitié de l'année.
Les années académiques, septembre à juin, c'est ça un peu, non ?
Alors, non, mais on a déjà fait un trimestre et nous, dans la communication, dans l'influence, beaucoup de choses se jouent au premier trimestre.
Okay.
Et donc là, je doute un peu de voir est-ce qu'on va atteindre l'objectif le plus élevé qu'on s'est mis avec l'agence cette année en termes de chiffre d'affaires.
C'est quoi ?
Ou pas.
Allez, Le million.
Le million, on l'a fait en 2021. Ouais. Là, 2024, on vise entre 7 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires.
C'est bien, non, il a raison.
Bravo.
Mais du coup, tu parlais que tu te doutes beaucoup dans ta vie. Quels sont les grands doutes depuis le début de ta carrière ? Et comment tu as fait finalement pour les combler ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans tout ça ?
Je pense que je doute beaucoup de moi. J'ai pas énormément confiance en moi, alors que ça se voit pas forcément à première vue. Mais depuis le début de Binfluence, j'ai très régulièrement douté de est-ce que j'étais à ma place ? Est-ce que j'allais y arriver ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose que je pouvais faire, de lancer une entreprise et puis de lancer une équipe et puis de faire grandir une équipe, etc. Donc on a douté énormément. Et qu'est-ce que je fais ? J'essaye de me rassurer comme je peux et j'essaye d'avoir plus confiance en moi en demandant l'avis des gens qui comptent pour moi.
Okay.
Voilà, je suis quelqu'un qui est très critique envers moi-même, donc j'ai souvent besoin d'entendre de la part de personnes en qui j'ai fondamentalement confiance quand je fais quelque chose de bien ou de mal pour éviter d'avoir une image peut-être trop négative de moi.
Si toi t'es exigeant avec toi-même, est-ce que du coup par défaut tu es exigeant avec les autres ?
Oui, mais je suis beaucoup plus compréhensif avec les autres qu'avec moi-même.
Ok. Et justement, tu parlais de la fondation de Binfluence, tu l'as pas fait tout seul.
Non.
Alors justement, on aurait pu aussi inviter Boris. Mais il y en a un qui est plus dans l'ombre que toi. Tu comptes 25 000 followers sur LinkedIn. Boris, il n'en a que 2 500. Est-ce qu'on peut dire que l'on devrait tous avoir un Boris qui se cache derrière chaque entrepreneur, quelque part ? Parce que, tu parlais de... J'ai besoin d'en parler. Du coup, est-ce que tu en parles beaucoup avec lui ? Est-ce que vous nous nourrissez mutuellement ?
Ouais, j'en parle beaucoup avec lui. 99%, 99% du succès de Binfluence, c'est parce qu'on est très complémentaires, Boris et moi. Mm-hmm. Et bien sûr que j'aurais jamais réussi à faire Binfluence sans Boris et inversement, et donc nos qualités se cumulent bien. Oui, je pense que c'est le secret de la réussite de tout entrepreneur, c'est d'avoir un associé ou une associée qui soit complémentaire et avec qui on peut vraiment tout partager, donc bien sûr les succès, mais aussi les échecs, les doutes, les remises en question, etc.
Très bien, on s'écoute un peu de musique, on va passer de l'ombre à la lumière, on est avec Boris et toi, donc on va passer à... Tu écoutes quoi comme musique, toi ?
Beaucoup de rap français.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est ta dernière réponse ?
Ouais.
Bon, on va essayer de te trouver un vieux rappeur, un MC Solar. Alors on passe
Allez,
encore,
parfait.
Mais il était déjà démodé à l'époque.
Non, c'est une icône.
Non, il reste.
Bonjour les amis, Binfluence, on rêve tous d'être influenceur ou influenceuse. En tous les cas, on est influenceuse parfois de sa propre vie, hein, déjà, Thomas, avec Jérémy Thomas.
Je ne sais pas si on le rêve tous, mais en tout cas, il y a une question qui me vient tout de suite. Quelle est la transparence du doute et la légitimité dans le métier que tu fais ?
Waouh !
T'as 2 heures.
Ouais. Non, j'ai 2 minutes.
Oui, c'est ça. Réponse courte.
Je pense que de plus en plus, le doute est accepté dans l'influence et sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'on accorde beaucoup d'importance à l'authenticité. On ne veut plus voir... des contenus parfaits, postés par des personnes qui ont l'air parfaites. Personne n'est parfait, et c'est normal de douter. Et quand on est créateur ou créatrice de contenu, on doute énormément par rapport à ce qu'on peut raconter, au contenu qu'on fait, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. On se prend forcément des critiques parce qu'il y a toujours des haters en ligne, et donc ça, ben, ça nous touche beaucoup aussi. Mais c'est accepté, ça devient plus valorisé. Et les communautés aujourd'hui, si elles suivent un créateur ou une créatrice de contenu qui ne doute jamais, qui est toujours à 100% sûr d'elle, bah, ça va créer une distance et ça va casser quelque chose.
Une petite question, les haters, c'est ça qui fait vivre les influenceurs, hein, quelque part. Le plus, c'est une influence positive ou négative sur laquelle on peut rebondir, mais ils font un peu la réputation des influenceurs.
Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en ligne, il y a des haters pour tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, il faut bien différencier les critiques constructives et les débats et les trolls, voire juste des gens qui sont mal intentionnés et qui sont méchants gratuitement.
C'est ça. Alors justement, il est peut-être important de définir en fait l'influence en question. François Roustan, philosophe français, disait « On parle d'influence quand une personne ou un groupe agit de façon secrète sur une autre personne ou un autre groupe. Il lui est attribué les caractères de l'étrangeté parce qu'elle fait irruption dans un autre type de communication auquel nous nous sommes habitués. Celui où l'intentionnalité joue le plus grand rôle, mais c'est là une erreur d'optique. L'influence ne cesse pas puisque nous transmettons et recevons sans discontinuité les signes de nos impressions et de nos affections, puisque nous participons activement et passivement à chaque instant au réseau relationnel qui nous individualise. La question que j'ai envie de te poser, est-ce que le doute peut-il influencer l'esprit critique ? Y a-t-il une bonne manière, finalement, de douter ?
Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de douter. Le doute, c'est un état de fait. Et comment l'influence peut influencer le doute ? Je pense que c'est même pas une question de l'influence, c'est une question des réseaux sociaux aujourd'hui. On le voit avec l'émergence de l'intelligence artificielle et des fake news, etc. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de doutes sur ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce qu'on lit est vérifié ou ne l'est pas ? Et ça va être une grande question pour l'influence, mais juste pour les réseaux sociaux en général. Du côté de l'influence, on parle beaucoup des influenceurs virtuels, ouais. Mais au moins on voit quand un influenceur est virtuel ou non, donc on peut facilement savoir si on a envie de croire à ce que du code nous raconte versus quelqu'un d'humain. Et l'influence, il ne faut pas oublier que ça marche parce que justement on sait que c'est des êtres humains qui ont leur système de valeurs, leur centre d'intérêt, leurs qualités, leurs défauts qui nous parlent, et donc on choisit de les croire ou non sur base de ce qu'ils représentent en tant qu'être humain, ce qui n'est pas possible avec l'influence virtuelle.
Allez, c'est peut-être l'intelligence artificielle, en tout cas la musique, hein. Je rappelle que la boîte à rythme, c'est la première boîte d'intelligence Vrai. Artificielle existée en 1953, les amis. Thomas Angerer est avec nous, Beinfluence, hein. Et puis Jérémy Thomas qui reste aussi. Bah, tu restes jusqu'à la fin. Hein.
Bah, évidemment.
Encore une petite partie. Il nous a encore fait une entrée de fort. Hein. Allez, on va. Thomas Angerer, hein, c'est le petit Belge qui monte avec son ami Boris Beinfluence. On entend pas beaucoup parler de vous, hein, Jérémy Thomas.
Ben oui, oui, on en parlait tout à l'heure, la sixième agence au monde. Alors justement, qu'en est-il de la déontologie dans votre métier ? Parce qu'il est vrai qu'il y a un peu de tout et de rien, et donc du coup, on se pose souvent un peu la question de déontologie.
Non, mais allô, quoi.
Ben ouais.
C'est un peu ça.
Mais c'est vrai que c'était la jungle, et ça allait encore, mais depuis une grosse année maintenant, il y a toute une régulation qui est en train d'être mise en place pour encadrer l'influence, les pratiques de l'influence, les créateurs et créatrices de contenu, et ça c'est très bien parce qu'au-delà de punir les mauvais élèves, ça a permis surtout de démontrer que l'immense majorité des créateurs et des créatrices de contenu et des agences et des annonceurs qui utilisent l'influence, bah en fait respectent déjà la loi et sont déontologiques. Et évidemment que les médias aiment bien mettre la focale sur la toute petite minorité d'influenceurs de la télé-réalité qui font tout et n'importe quoi, mais c'était pas la réalité de notre métier déjà il y a plus de 2 ans, et aujourd'hui encore moins.
Bah justement, tu parlais de la loi, on va parler de la loi Thierry Breton, la loi influenceur, à savoir le devoir de censurer finalement. Peut-on encore douter de la véritable liberté d'expression dans un monde de moins en moins démocratique ?
Ouais, je pense qu'on peut en douter. Après, de nouveau, je pense que c'est pas du tout spécifique à l'influence. Aujourd'hui, les créateurs et les créatrices de contenu, quand ils font un partenariat rémunéré, ils sont obligés de l'annoncer. Donc tout le monde est au courant qu'il y a forcément un budget derrière. Après, ça nous permet de choisir en tout état de cause si on veut croire ou non à ce que le créateur ou la créatrice nous raconte. Mais après, de manière plus large, en dehors des collaborations rémunérées, je pense que la liberté d'expression, elle est fondamentale. Je pense qu'il y a toute une partie de la population qui se cache aussi derrière cette notion pour raconter tout et n'importe quoi, alors que la liberté d'expression, c'est pas dire ce qu'on veut tout le temps, c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut la préserver parce que à cause des réseaux sociaux, on rentre de plus en plus dans des bulles d'écho, où en fait on entend de moins en moins d'idées divergentes.
D'égo aussi.
Et d'égo, exactement. Exactement. Et donc ça, c'est dangereux parce que si on entend tout le temps la même chose, il n'y a plus d'autres points de vue. Et donc on se ferme aussi à d'autres réalités.
Mais justement, avec TikTok, par exemple, qui se fait de plus en plus bannir, ou X, qui est repris par Elon Musk, où allons-nous avec les réseaux ?
Très bonne question, j'ai pas la réponse. Je pense que X va aux oubliettes. Je pense que TikTok va se prendre un sacré tour de vis avec ce qui se passe aux États-Unis, ouais. Là où ByteDance va devoir soit vendre, soit partir. Et je pense qu'il y a un fond de vérité qui est peut-être dérangeante à entendre, mais qui est non moins réel, que la Chine, forcément, a le contrôle sur ce réseau social, qui est la plateforme la plus puissante aujourd'hui, et qui peut permettre d'influer, justement, sur les idées et les opinions de centaines de millions, voire de milliards de personnes. Et ça, à un moment,
on a l'impression qu'il y a un point de bascule qui va être les élections américaines sur ces élections.
Ah oui,
certainement.
Ouais. Parce qu'on est effectivement dans une année aux enjeux géopolitiques majeurs, justement à l'aube des élections, que ce soit ici en Belgique ou même en France au niveau européen. Quelle est la place selon toi du politique dans tout ce marasme de réseautage social ? Est-ce un moyen d'expression pour eux de se montrer plus vulnérables, ou on nage toujours autant dans le doute de la sincérité ?
Je pense les deux, mais je pense que c'est fondamental que les politiques s'intéressent aux réseaux sociaux, mais c'est aussi fondamental qu'ils comprennent les réseaux sociaux et donc ce à quoi ils doivent s'intéresser. Parce que quand on a vu les hearings avec le Sénat américain, ça faisait peur des fois les questions que les sénateurs osaient poser. Mais le problème, c'est que si on ne comprend pas comment ça marche, on ne peut pas comprendre comment le réguler de la bonne manière. Et toute la question, elle est là. Après, les politiques, ils comprennent aussi le rôle de l'influence. Nous, on a reçu un appel d'offres de la chancellerie du Premier ministre pour faire une campagne d'influence contre la désinformation et les fake news liées aux élections du 9 juin. Donc c'est top qu'ils utilisent ce canal pour aller toucher une partie de la population qui ne croit pas en eux forcément, mais croit aux créateurs et aux créatrices de contenu.
Très bien. Dernière question. Oui. On va se quitter, malheureusement.
Mais quels sont tes doutes sur l'avenir de l'influence marketing dans les années qui viennent, notamment avec la puissance de l'intelligence artificielle, par exemple ?
Ouais. Alors j'ai très peu de doutes, là, un peu paradoxalement, mais comme j'ai dit, l'influence, c'est un canal qui est fondamentalement humain. Donc en fait, l'intelligence artificielle, elle va venir soit aider les créateurs et créatrices de contenu à être plus efficaces, plus créatifs, plus imaginatifs dans leur contenu et dans leur présence en ligne. Mais par contre, ça viendra jamais remplacer le facteur humain. Et donc ça, tant mieux pour l'industrie, tant mieux pour les créateurs et créatrices de contenu et tant mieux pour des agences comme nous.
L'intelligence artificielle remplacerait les êtres humains qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. C'est plutôt dans ce sens-là.
Ouais, c'est toujours le truc de l'IA te remplacera pas toi, l'IA te remplacera par une personne qui sait l'utiliser.
Voilà, exactement.
Mais on ne perdra jamais la créativité, parce que ça, l'IA ne sait pas le faire. Ouais.
Alors moi, je vais conclure par une citation à qui l'on prête la paternité à Pierre Desproges. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Que l'on pourrait adapter par « on peut parler de tout, mais visiblement plus avec n'importe qui ». On notera donc, pour ce qui nous concerne, on continuera librement à l'ouvrir comme bon nous semble. Merci Thomas.
Merci beaucoup.